Vous écoutez Radio Fribourg 90.4 FM, voici les informations, il est 18h.
Le journal du soir, Marianne Corna.
6 avions de l'OTAN ont bombardé cet après-midi un dépôt de munitions serbes dans la banlieue de Sarajevo, 4 heures après l'expiration de l'ultimatum donné aux belligérants par la FORPONU. La police japonaise en est convaincue, la secte Aum préparait un coup d'État. Un sous-officier de l'armée nippone avait mis la main sur des plans de fabrication d'armes sophistiquées. Les entreprises textiles tessinoises pourront procéder à des coupes dans les salaires. La commission paritaire nationale a donné son feu vert. Mario Cipollini, vainqueur de la 12e étape du Tour cycliste d'Italie. Tony Rominger, victime d'une chute, conserve le maillot rose de leader. Les fausses thunes, les faux boromini ou les faux dollars, la fausse monnaie sous toutes ses formes. C'est le voyage que vous propose Forum dans une vingtaine de minutes. Une zone d'averse nous arrive dessus, averses qui persisteront ici ou là demain. Les températures vont baisser légèrement, de 10 à 12 degrés à l'aube, de 20 à 22 l'après-midi. Des détails avec Météo Suisse en fin de journal. Bonsoir. L'ONU a donc mis sa menace à exécution. Les avions de l'OTAN ont bombardé un dépôt de munitions près de Palais, fief des Serbes bosniaques. Les appareils ont ensuite regagné leur base intacte. La FORPONU avait lancé un ultimatum aux Serbes de Bosnie et aux Bosniaques pour qu'ils remettent leurs armes lourdes au casque bleu. Ultimatum qui expirait ce midi. Sur place, Philippe Depré.
Ce dépôt, situé près de Palais, serait en feu si l'on en juge par l'énorme colonne de fumée qui s'élève au sud-est de Sarajevo. Le porte-parole de l'OTAN contacté à Naples a déclaré que les avions engagés sont rentrés sans encombre à leur base italienne. Cette action aérienne fait suite à un ultimatum lancé hier par le commandant de la FORPONU en Bosnie-Herzégovine, le général Rupert Smith. L'ultimatum qui appelait au cessez-le-feu ordonnait également aux Serbes séparatistes de rendre les canons volés dans les zones de collecte des armes lourdes sous contrôle onusien. Ce point n'étant pas rempli dès 12 heures, l'ultimatum a donc produit son effet. Ici, dans la capitale assiégée, la population a réagi avec étonnement, car les Bosniaques ont été plus d'une fois déçus par la communauté internationale. L'ultimatum lancé hier par le général Smith comporte également un second volet capital. Si demain, les Serbes bosniaques n'ont pas retiré les armes lourdes hors de la zone d'exclusion de 20 km qui entoure Sarajevo, alors les avions de l'OTAN frapperont de nouvelles cibles. À Sarajevo, Philippe Depré pour la Radio Suisse Romande.
Vous l'avez entendu, cette frappe aérienne pourrait être suivie par d'autres raids, mais ce n'est pas la première fois que l'OTAN intervient en Bosnie, Emmanuel Girardin.
C'est même la 9e fois depuis avril 1993 que des avions de l'OTAN bombardent des positions serbes. Tout comme les précédents, ce nouveau raid a été très limité dans ses objectifs, selon les termes même du commandant des forces de l'Alliance Atlantique. De plus, l'attaque était prévue, on vient de l'entendre, les Serbes de Bosnie n'ayant pas rendu les armes lourdes prises ces derniers jours au casque bleu. Selon l'OTAN, aucun appareil français ou britannique n'a participé à l'opération. Ce n'est évidemment pas un hasard, puisque les soldats de ces deux pays sont engagés en Bosnie. Les Nations Unies tentent ainsi de ne pas trop contrarier Radovan Karadzic. Le chef des Serbes bosniaques a en effet répété hier qu'il s'en prendrait au casque bleu si des raids aériens étaient effectués contre ces positions. Une nouvelle fois, les Occidentaux optent donc pour la demi-mesure en ex-Yougoslavie. Ils interviennent parce que s'abstenir eût été considéré comme un signe d'impuissance, mais ils interviennent modérément pour ne pas risquer de trop subir les contre-coups d'un conflit qu'ils n'ont à aucun moment été en mesure d'arrêter.
Les négociations entre Russes et Tchétchènes, placées sous l'égide de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, sont au point mort. Au terme de 3 heures de discussion, aujourd'hui à Grozny, les deux parties en conflit ont décidé de se retirer. Patrick Chaboudet.
Personne n'attendait réellement que ces pourparlers, les premiers entre des responsables civils russes et tchétchènes depuis le début du conflit, débouchent sur un quelconque compromis. Certes, le représentant tchétchène a déclaré que les séparatistes étaient prêts à arrêter les combats, mais sans préciser toutefois à quelles conditions. Avant le début des discussions, il avait tout de même rappelé, une fois encore, l'exigence du général Doudaev, à savoir le retrait inconditionnel des troupes russes de la République caucasienne. L'important est que les négociations aient commencé, constaté pour sa part Nikolai Semyonov, le délégué du Kremlin en Tchétchénie. Mais pour l'instant, du moins, ces pourparlers ne sont guère plus qu'un geste symbolique dont la portée est singulièrement limitée par la réalité des faits. Ils ont d'ailleurs été suspendus pour une durée indéterminée. Raison invoquée par le représentant tchétchène, les Russes ont poursuivi leur bombardement des positions séparatistes dans le sud de la Tchétchénie en dépit d'un appel de l'OSCE à une suspension des opérations militaires. Moscou, Patrick Chaboudet, Radio Suisse Romande.
Le dialogue est renoué entre Israël et la Syrie. Des contacts militaires directs entre l'État hébreu et Damas vont reprendre d'ici un mois. La reprise de ces négociations annoncée hier par Washington a été bien accueillie par la Jordanie et l'Égypte notamment. Partisans de Yasser Arafat et militants islamistes manifestent la main dans la main dans l'enclave cisjordanienne de Jéricho. Ils protestent contre la politique d'expropriation d'Israël à Jérusalem-Est. Nouvelle révélation dans l'affaire de la secte Aum au Japon. La police japonaise vient d'arrêter un sous-officier de l'armée nippone soupçonné d'avoir fourni des documents de la société Mitsubishi concernant la fabrication d'armes ultra sophistiquées. Les enquêteurs ont maintenant la conviction que la secte préparait un coup d'État. George Baumgartner.
Shoko Asahara avait fixé un ultimatum au gouvernement japonais. Il lui avait donné jusqu'à novembre prochain pour lui céder le pouvoir. Le gourou de Aum entendait s'autoproclamer le premier ministre du Japon. Pour persuader l'État du sérieux de sa menace, il ordonna en guise de coup de semonce l'attaque au sarin dans le métro de Tokyo. En novembre, la police explique que si le gouvernement n'avait pas démissionné, Aum aurait anéanti Kasumi Kaseki, le centre du pouvoir politique à Tokyo, d'abord par des tirs de mortier, en utilisant ensuite des hélicoptères télécommandés déjà en sa possession et des dirigeables pour semer du sarin dans le ciel de Tokyo. Le journal Tokyo Shimbun précise même que 240 kg de sarin et 12 hélicoptères auraient été mobilisés pour cette occasion apocalyptique. Il y a une dizaine de jours, des dirigeables ont été portés par le vent de la péninsule coréenne vers le Japon. La police craint que des membres de Aum n'envoie de Corée du Nord ou de Russie d'autres dirigeables chargés cette fois-ci de sarin ou d'armes bactériologiques. Georges Gartner, Radio Suisse Romande, Tokyo.
Première rencontre depuis 22 ans entre un dirigeant du Sinn Féin, l'aile politique de l'IRA, et un membre du gouvernement britannique. Un entretien d'une demi-heure piloté par les Américains à Washington. Philippe Reltien de Radio France.
Déjà 8 mois de trêve en Irlande du Nord, une trêve parrainée par les États-Unis. Le vice-président américain Albert Gore a inauguré un forum pour investir en Irlande du Nord et a offert un hôtel de Washington, le Sheraton, pour abriter la première rencontre au niveau ministériel entre Gerry Adams, chef du Sinn Féin, la branche politique de l'IRA, et le secrétaire britannique à l'Irlande du Nord, Sir Patrick Mayhew. C'était hier soir et ce fut bref. En 30 minutes, Sir Patrick a dit à Gerry Adams que son mouvement ne sera pas invité à la table ronde sur l'avenir économique en Irlande du Nord tant que l'IRA n'aura pas déposé les armes. Pas de business, a-t-il dit, avec la branche politique d'un groupe paramilitaire qui ne fait rien pour vider ses stocks d'armes. Je regrette, je n'ai pas eu de réponse positive. Gerry Adams a demandé à la Grande-Bretagne de reconnaître son mouvement qui, dit-il, ne contrôle pas l'IRA.
Suite à cette rencontre historique, les partis protestants d'Ulster fulminent. Ils estiment scandaleux le face-à-face entre les deux ennemis d'hier. La condamnation à 3 ans de prison pour Eddie Fleiss, cette Californienne de 29 ans, poursuivie pour avoir monté un réseau de prostitution destiné au tout Hollywood. Son arrestation avait provoqué un tollé, la jeune femme menaçant de révéler les noms de sa riche clientèle. Eddie Fleiss a fait appel de ce jugement. Elle a été remise en liberté contre le versement d'une caution de 200 000 dollars. Un coup de pouce à l'industrie tessinoise de l'habillement qui traverse une grave crise. Les entreprises en difficulté pourront effectuer des coupes dans les salaires. Mais la situation de chaque firme sera analysée cas par cas. Un accord a été trouvé hier soir à Zurich entre les patrons tessinois et la Commission paritaire nationale du secteur de l'habillement. Sylvia Beuret.
Au Tessin, l'industrie de l'habillement est mise à dure épreuve. Crise, récession, forte concurrence italienne, 8 entreprises ont fermé l'an dernier. L'AFRA, l'association qui regroupe ces industries, estime que des coupes dans les salaires sont supportables puisque le 97% des travailleurs de la branche sont frontaliers et que ces travailleurs ont vu leur pouvoir d'achat augmenter sensiblement ces derniers mois. L'AFRA est donc allée négocier hier à Zurich un accord avec la Commission paritaire nationale. Premier résultat concret, l'augmentation des salaires de 10 centimes par heure prévue dès le 1er juillet a été annulée. Les industries textiles tessinoises pourront par ailleurs appliquer un article de crise du contrat collectif de travail, article qui prévoit différentes coupes dans les salaires. Mais l'entreprise qui voudra y faire recours devra d'abord négocier avec la commission paritaire cantonale, puis recevoir la bénédiction nationale. L'accord négocié à Zurich satisfait les syndicats tessinois qui, dans un premier temps, avaient trouvé inacceptables les coupes salariales revendiquées par les patrons de la branche.
Le Valais est le deuxième canton le plus touché par le chômage. Avec un taux de 7,6%, il se situe en effet entre Genève et Vaud. Au travers d'un projet de loi, le gouvernement valaisan veut favoriser la réinsertion des sans-emploi. Il entend obliger les communes à se regrouper pour créer des offices régionaux de placement. Une sorte de bourse de l'emploi à l'échelon supracommunal. Les explications de Patricia Mélan.
À moyen et long terme, le chômage va perdurer en Valais. L'État doit donc réagir. Et il le fait au travers d'un projet de loi. Un projet cantonal qui préconise notamment la création d'offices de placement régionaux, les ORP. Les tâches seraient alors clairement redistribuées. Les offices communaux du travail s'occuperaient de l'administratif, alors que les ORP assumeraient les tâches dynamiques comme le placement et la réinsertion professionnelle. Le projet prévoit un tel centre par région socio-économique. C'est dire que les communes seraient contraintes à se regrouper pour en assurer la création ainsi que l'exploitation. Et il ne s'agirait pas d'un choix, mais d'une obligation imposée par la loi. L'émergence d'ORP nécessiterait 46 postes de travail et un budget de plus de 5 millions. Le mode de financement se ferait au travers d'un fonds cantonal pour l'emploi, alimenté pour moitié par l'État et pour l'autre par les communes. La proposition est désormais entre les mains des députés du Grand Conseil.
Une rivière polluée par du cyanure dans le canton de Saint-Gall. L'incident a été provoqué par une fuite dans une usine de raffinage de métal d'Engelbourg. La substance s'est déversée dans la Sitter. De nombreux poissons ont péri. La population a été priée d'éviter tout contact avec l'eau de la rivière. Gros incendie ce matin au laboratoire de chimie de l'école polytechnique de Zurich. Pas de blessés, mais des dégâts considérables, estimés à quelque 300 000 francs. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine du sinistre. Sport, 12e étape du Tour cycliste d'Italie. Victoire au sprint de l'Italien Mario Cipollini devant le Slovaque Jan Svorada. Tony Rominger, victime d'une chute, conserve le maillot rose de leader. Pierre Mercier.
Les coureurs ont musardé, enfin, ils en avaient tous besoin. La fatigue est apparente sur les visages comme dans les jambes. Et aujourd'hui, on a roulé pour la plupart du temps à 35 km à l'heure. Si ce n'est dans la dernière heure où, bien entendu, les équipes des sprinters se sont manifestées pour une nouvelle victoire, la troisième de Cipollini au sprint, cette fois juste devant le Slovaque Svorada. Frayeur pour Tony Rominger qui est tombé à 30 km de l'arrivée. Pas trop de mal pour le Zougouin, plus apeuré qu'autre chose, quand bien même il est touché légèrement au coude et au genou droit. Cento, Radio Suisse Romande, Pierre Mercier.
Dracula n'était pas un vampire, c'est ce que veulent démontrer les intervenants du Congrès mondial sur Dracula qui s'est ouvert aujourd'hui à Bucarest. Au-delà du mythe, né du livre du romancier irlandais Bram Stoker en 1897, le véritable prince Dracula a vécu au 15e siècle. Tyran sanguinaire, il pratiquait l'empalement. Jean-Marc Béguin a demandé à l'un des spécialistes du Congrès de Bucarest, Matei Kazako, quel était l'objectif de la réunion.
Bon, son objet, c'est de mettre un peu au point nos connaissances et d'arriver à dissocier très clairement le vampirisme et le personnage historique Dracula, le Dracula de Bram Stoker et de toute sa postérité cinématographique et Vlad l'Empaleur et ses actions. Et en subsidiaire, ou peut-être en premier, d'attirer davantage de touristes en Roumanie, puis de découvrir les lieux attaché à ce personnage, puisque beaucoup de gens ignorent les endroits qui sont vraiment ravissants, où Dracula est né, où il a vécu, par où il a voyagé, et qui couvrent pratiquement toute la Roumanie du sud et de l'ouest aujourd'hui.
Il n'a pas été question de Dracula aujourd'hui à Cannes, mais d'un Sidéen, d'un roi fou et de Catherine Deneuve au couvent. Trois films en compétition pour la Palme d'Or présentés aujourd'hui sur la croisette. La vie et la mort au premier plan avec le nouveau film du cinéaste français Xavier Beauvois, un long métrage que nous présente Patrick Ferlat.
N'oublie pas que tu vas mourir, c'est le deuxième film de long métrage du jeune cinéaste français Xavier Beauvois qui a tenu l'affiche à Cannes quatre jours avant la clôture dimanche soir de ce festival du film. Un long métrage d'un réalisme romantique noir et outrancier, une déception de plus dans ce festival que ce film qui se veut voyage au bout de la nuit et collectionne en fait les clichés les plus contestables attachés au trafic des sentiments. Se penchant sur le cas d'un jeune homme qui découvre sa séropositivité, Xavier Beauvois n'évite en effet dans ce film aucun des pièges de ce qui aurait pu constituer de fable moderne sur le mal du siècle. Très loin donc de ses ambitions, faisant endosser à son personnage toutes les dérives possibles, drogue, sexe et guerre, Xavier Beauvois prétend montrer au terme d'un long métrage sans parole quant à la morale du cinéma, mais incroyablement bavard, que la mort paradoxale qui fauchera son héros est censée donner précisément un sens à sa vie. La fin de ce long métrage, N'oublie pas que tu vas mourir, est si pitoyable et si racoleuse qu'à la découvrir, on ne peut s'empêcher de penser que les terribles images en provenance de Sarajevo sont aujourd'hui exploitées comme elles n'auraient jamais dû l'être, assurément. Au Festival du film à Cannes, Patrick Ferlat, Radio Suisse Romande.
Décès de l'actrice Dany Robin à la suite de l'incendie de son appartement parisien la nuit dernière. La comédienne était âgée de 68 ans. Dany Robin avait fait ses débuts dans la danse avant de se tourner vers la comédie à la fin de la guerre. Elle avait tourné notamment avec Marc Allégret, Marcel Carné ou René Clair. Elle avait également joué de nombreux classiques. Mais la comédienne était restée une femme très simple. L'une des seules concessions qu'elle avait faites à son métier était la coquetterie. Écoutez un extrait de l'entretien qu'elle avait eu en février 1964 avec Antoine Livio dans l'émission Les Visiteurs du Soir.
De moi-même, je ne le suis pas. Je le suis pour mon métier. C'est-à-dire que j'ai fait une tournée il y a 7 ans. Et à 7 ans, je me disais, après tout, en tournée, c'est trop dur. Je me mets en pantalon, je ne me coiffe pas, j'avais le foulard sur la tête. Et j'étais comme ça, enfin, comme n'importe quelle femme serait, en se disant, moi, je joue pas, je me promène en voiture, je viens de faire 300 km, je vais jouer dans une autre pièce. Et je me souviendrai toujours la réflexion d'une femme en descendant de voiture qui a dit, oh, c'est ça, Dany Robin, eh bien, elle n'est pas élégante. Eh bien, depuis ce jour, plus jamais je ne porte des chaussures à talons plats, ce qui fait d'ailleurs le malheur de mon époux qui est furieux parce que quand on va visiter les eaux, il me fait « Ah, en chaussures à talons hauts !» Plus jamais je suis décoiffée et plus jamais je suis laissée aller parce que c'est vrai que peut-être ça peut décevoir le public.
Sachez enfin que les employés de l'ambassade des États-Unis à Moscou pourront désormais avoir des relations amoureuses avec des Russes. L'ambassadeur a donné son feu vert. Jusqu'ici, tout flirt avec des Russes était strictement interdit aux citoyens américains. Les amours américano-russes seront donc tolérés, sauf pour les militaires et les espions, mais à une condition, le bureau de sécurité de l'ambassade devra en être informé. Comme promis, voici les nouvelles du ciel, très attendues en ce début de week-end prolongé pour beaucoup d'entre vous.
La météo, avec l'exposition Nicolas de Staël de la Fondation Janada.
Une zone pluvieuse arrive sur la région lémanique. Elle produira quelques averses et coups de tonnerre ce soir sur le Jura, le Valais et le Plateau aussi. Les régions alémaniques et tessinoises sont encore au soleil. Elles ne seront pas concernées par cet épisode pluvieux. Les températures de demain en pleine, 10 à 12 degrés à l'aube, 20 à 22 l'après-midi. Le vent souffle faiblement montagne. Il vient du sud-sud-est et persistera demain. Au voisinage des orages, des rafales restent possibles. La basse pression sur l'Irlande provoque ces vents du sud. C'est elle qui apporte la zone de mauvais temps qui va traverser le pays cette nuit et demain. Demain, les nombreux nuages déclencheront des averses ici ou là à travers le pays. Les Alpes valaisannes centrales resteront les plus exposées. Samedi, le temps se remettra en cours de matinée dans les régions romandes. Outre Sarine comme au Tessin, par contre, les nuages persisteront un peu plus longtemps, les averses aussi. Dimanche, les baromètres seront à nouveau à la hausse. Cela se traduira par du soleil et de la chaleur dans toute la Suisse.
Microphage, le micro qui mange les questions. Microphage, le jeu glouton de Radio Suisse Romande La Première, auquel vous pouvez participer chaque matin par téléphone. Votre appel passe à l'antenne, vous gagnez déjà 20 billets télétrésors d'une valeur totale de 200 francs, offerts par la loterie romande, avec peut-être 100 000 francs à la clé. À l'écoute de réponses enregistrées, vous devrez retrouver la question mangée par le microphage. En cas d'erreur, 20 billets télétrésors vont dans la cagnotte. Si vous trouvez la question, à vous la cagnotte. Microphage, c'est le matin à 7h40 sur Radio Suisse Romande La Première en appelant le 021 653 72 72.
Il est tout juste 18h18 sur Radio Suisse Romande La Première. Sylvie Lamblay, Marc de Cressé Forum.
Farine Joseph Samuel, condamné par le tribunal du district de Martigny le 5 juillet 1871 à 4 ans de réclusion à dater du jugement pour fabrication de la fausse monnaie. 24 janvier 1871, entré au pénitencier de Sion sous prévention. 5 juillet, date du jugement et du commencement de sa peine. août, évadé. 21 août, ramené. 1872, 9 juillet, de nouveau évadé en descendant par le privé.
Sieur Farinet, j'en étais sûr. Oh, ça alors, ça me fait trop plaisir.
Comment? Vous savez?
Je vous ai bien reconnu.
Mais moi aussi, il me semble que je vous connais.
Joséphine Pellanda, vous vous rappelez pas? Ah, ça y est, chez Crittin, je faisais un remplacement.
Mais bien sûr. Alors, vous savez?
Comme tout le monde, on a parlé de vous dans les journaux. Il paraît qu'on vous cherche.
Bonsoir. C'est un forum un peu particulier que nous vous proposons ce soir, congé de l'ascension oblige. Et plutôt qu'un débat, eh bien c'est dans un voyage au cœur de la fausse monnaie que nous vous emmenons ce soir. La fausse monnaie, les faux billets, un problème d'actualité. Et Sylvie Lamblay, un jugement d'ailleurs vient de tomber dans l'affaire des fausses thunes, des fausses pièces de 5 francs qui ont mis la Suisse romande en émoi. C'était au début de l'an dernier.
Deux trafiquants de fausses thunes ont été jugés début avril de cette année. Le tribunal de Montes s'est montré clément, 12 et 18 mois de prison avec sursis pour les accusés présents. Mais leurs deux autres compères qui étaient absents au procès ont, eux, écopé de peine ferme. Précisons qu'il ne s'agit pas, dans ce cas-là, de fabrication de fausses monnaies, uniquement d'importation de trafic. Les fausses thunes venaient d'Italie.
Alors, on va bien sûr y revenir, mais Sylvie, avant d'évoquer les affaires de fausses monnaies actuelles, je vous propose un petit détour dans la légende, dans le mythe, mais aussi dans l'histoire de la fausse monnaie en Suisse. Bien sûr, le héros, le mythe du faux monnayeur, il est représenté par Farinet. Farinet transformé en héros par Ramu, un Farinet devenu un personnage de la légende valaisanne. Un personnage que l'on peut redécouvrir aujourd'hui grâce à un ouvrage qui vient de sortir de presse aux éditions Euywinkel à Carouge, et c'est l'historien balois Willy Vautringue qui en signe le texte. C'est donc en sa compagnie que je vous propose de partir sur les traces de Farinet, mais aussi en compagnie de Pascal Thur, c'est l'infatigable animateur des Amis de Farinet au cœur du bourg médiéval de Saillon. Et première précision, Farinet, héros du Valais, eh bien n'était pas valaisan. Willy Vautringue.
Oui, c'est vrai, il vient de la vallée d'Aoste, ce qui d'ailleurs Ramu ne voulait pas dire, puisque pour lui c'était un héros de la Suisse, donc pour Ramu il devait naître en Suisse. En vérité, il vient de Saint-Remy en Bosse, de l'autre côté du Grand Saint-Bernard.
Alors, qu'est-ce qui va amener Farinet à devenir ce personnage, cet insoumis, ce révolté, ce fameux faux monnayeur?
Moi, je pense que c'était ni un révolté, ni un pauvre. C'est un homme d'ailleurs très sympa, qui voulait vraiment rien d'autre de vivre et qui ne voulait pas bosser pour 40 ans pour après pas avoir vécu.
On a souvent dit que Farinet avait donc fabriqué de la fausse monnaie avant tout pour venir en aide aux pauvres gens, à ce Valais à l'époque sous-développé. C'est vraiment sa raison ou c'est avant tout une affaire d'argent, sous-entendu pour lui, la nécessité d'arriver à trouver ses propres ressources?
C'était l'espoir de pouvoir vivre librement, peut-être même apporter quelque chose à ses parents, à sa famille, de pas devoir toujours être dans la misère. Et dans ce cadre-là, c'est vrai, il aidait aussi aux autres, mais il n'était pas un Jésus-Christ du Valais.
Oui, ça m'étonnerait que ça dure longtemps.
Alors, il y a plusieurs parties dans la vie de Farinet, selon Héritier. Il y a d'abord la partie italienne. Farinet, gosse au Grand Saint-Bernard. Il est né tout près du Grand Saint-Bernard. On le voit là avec un des chanoines. Les parties de chasse avec son père dans un décor fabuleux, le Grand Paradis, toute la partie du Val d'Ost. Et la rencontre de sa vie avec Adélaïde. Farinet disait, tu es mon ombre et tu es tout. Il n'a pas pu la marier parce que les parents d'Adélaïde ne voulaient pas qu'il marie ce vaurien, ce gangster. Et à ce moment-là, il part en Suisse, en Valais. Alors là, on arrive à l'âge d'or de Farinet. Il arrive en Valais, il voit la misère, au lieu de prendre les armes, comme il aurait pu, il prend le marteau, il enclume, il fait de la monnaie. Il se fait arrêter, pas d'importance, il est au sommet de sa forme, le lendemain il s'évade. Donc il s'est évadé historiquement de Chamonix, de Turin, d'Ost et de Sion, bien sûr. Quand il s'évade, il revient au village, on le voit là, en train de boire des verres, ce sera un superbe vitrail qui sera réalisé par les encaveurs de Saillon. Il boit des verres avec ses copains. Quand il est en prison, ben, il ne perd pas son temps. En attendant de s'évader, il médite, il fait le bilan de sa vie, un examen de conscience, est-ce que vraiment je suis dans la bonne direction ou non, et il décide, j'irai jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Là alors, c'est un autre tableau, là c'est le début du drame. Farinet descend au village, là on rejoint un peu le thème de Ramu. Il commence à discuter avec les femmes, on peut dire c'est ce qu'il a perdu. Regardez l'écoute de Farinet. Hein, la main dans le gilet, comme Napoléon, il écoute ce que les femmes lui racontent. Et ce que les femmes racontent, on le sait, la liberté, c'est pas vivre comme un ver de terre, là-haut dans la montagne, c'est vivre ici avec nous, avoir sa vigne, sa vache, sa femme. La police, bien sûr, est au courant. Et ce qui devait arriver arriva. L'une des femmes le trahit, montre à la police où c'est qu'il se trouve dans la montagne. Farinet se fait arrêter. Alors le thème est complètement différent, là, d'après Héritier. Il est enfermé, mais il se rend compte qu'il ne peut plus rien faire seul. Regardez, il sort les bras à travers les barreaux, puis il crie au type, « Mais bande de salauds, vous n'allez pas me laisser seul ici !» Tandis que là, il s'évadait seul, il est au sommet de sa forme. Là, il a dépassé la trentaine, il ne peut plus rien faire seul, il a besoin des autres. Tout grand thème, intéressant. Quand il s'évade, il repart, mais il a déjà une autre attitude, c'est la méditation. Il commence à réfléchir, c'est déjà Farinet à l'âge mûr. Il arrive déjà en se disant, j'ai 35 ans, est-ce que ça va continuer? Ça ne peut pas continuer. Jusqu'à 80 ans, mais va me faire enfermer. Pas de sens. Alors il réfléchit. Bien sûr, la police, plus que jamais, est à ses trousses. Et là, alors, c'est la fin du drame, c'est la mort de Farinet. Ce qu'il a perdu, il n'aurait jamais dû faire ça, discuter avec les autorités. Un nanar ne doit jamais discuter avec la loi, il ne doit jamais entamer le dialogue. Farinet s'est laissé prendre au piège, il commence à donner de l'argent, non seulement aux pauvres, aux sommeillères, aux curés, mais au pouvoir établi. Là, le président voit briller l'or dans sa main. Farinet lui en donne. Et puis alors, bien sûr, la police jubile, regardez là-bas. Et il donne même de l'argent aux autorités, il est foutu. Forcément, c'est la mort de Farinet. On voit les quatre gaillards, les quatre vignerons qui portent son cercueil en terre. En réalité, il n'y a pas eu de cercueil, on sait qu'il a été enterré comme Mozart, dans un sac et flanqué dans la fosse commune. Mais heureusement, il y a le dernier vitrail, l'immortalité. Farinet avec la rose d'or à la main, toujours vivant.
Lui, ce n'est pas un voleur. C'est tout le contraire. Il ne prend pas l'argent, il le donne. De l'argent, de l'argent! Dis plutôt du laiton pendant que tu y es! De l'or, oui! De l'or!
Je pense bien que c'est de l'or!
Bonjour!
Es-tu meilleur?
Un sirop de gomme!
Il a ses mines dans la montagne! Et l'or, c'est la montagne qui le lui donne! L'or, c'est comme la liberté! C'est solide, c'est fidèle!
Alors, Vili Vautrinck, chose intéressante, Farinet va se mettre à faire de la fausse monnaie, mais pas n'importe quelle fausse monnaie. Il choisit la pièce de 20 centimes. Je crois que d'abord qu'il faut situer que 20 centimes à l'époque, ça représentait quand même déjà une somme relativement importante.
On pouvait boire, si on voulait, tout l'après-midi avec 20 centimes ou aller au coiffeur, ça aussi coûtait à peu près 20 centimes. Moi, je pense qu'il le faisait en réalité par des raisons techniques. Les 25 centimes d'autrefois, il avait un caractère très dur et ça facilitait de le fausser. En plus, 20 centimes était beaucoup plus facile à diffuser qu'un billet de 100 balles qu'aucun paysan n'aurait pris.
Donc le fait d'avoir fait peut-être de la monnaie en or ou des billets aurait immédiatement, l'aurait fait repérer tout de suite.
C'est ça, et en plus de le faire en or, ça posait des problèmes techniques beaucoup trop difficiles pour l'artisan quand même simple, pas trop formé, que représentait Farinet.
Alors on dit que ces pièces de 20 centimes étaient des imitations parfaites.
Non, il n'était pas du tout parfait. On les reconnaît très simplement. Il était plus noir que les monnaies ordinaires, mais il était répandu d'une telle quantité, par exemple à Martinibourg, à certaines époques, il représentait un tiers de toute la monnaie de 20 centimes, que la police ne pouvait pas intervenir et l'administration non plus, donc on laissait circuler, on ne pouvait rien faire.
On sait combien de fausses monnaies, pour quelle valeur de fausses monnaies Farinet a fabriqué?
Il a fabriqué diverses fois, il a toujours recommencé à fabriquer, il a acheté ou construit de nouvelles machines. Et la somme totale devrait à peu près arriver à une somme de 40 000 balles.
40 000 francs pour l'époque, évidemment, c'est considérable. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'effectivement, comme vous le dites, l'État n'a jamais cherché à retirer la monnaie de Farinet de circulation. Elle a eu vraiment valeur quasi officielle pendant de nombreuses années.
Quasi officiel. Les autorités n'avaient pas de moyens. Avant, il n'avait pas de volonté vraiment, puisque c'était quand même. Le Valais était en contradiction un peu politique avec Berne. Il ne voulait pas vraiment adhérer à cette nouvelle État suisse. Et puis, quand il commençait à le poursuivre, c'était un peu trop tard. C'était surtout le Conseil fédéral qui voulait garder intact, disons, la monnaie nationale, mais on n'y arrivait plus, puisqu'on était trop tard.
Autre problème aussi à propos de la mise en circulation de ces pièces, c'est le fait qu'on ne les ait pas retirées. On a souvent lié aussi la fausse monnaie de Farinet au scandale de la banque du canton du Valais à l'époque.
Ça, c'est évident. Il y a vraiment un lien très étonnant que la crise de la banque cantonale valaisanne couvre la même époque de l'activité de Farinet. Et c'était la raison pourquoi la population disait « Mais si la banque cantonale elle-même n'est pas capable de donner au peuple des billets de banque qui sont vraiment durs et valables, pourquoi on ne pouvait pas le faire nous-mêmes? Pourquoi ce Faraday ne fait pas de monnaie plus vraie que la monnaie officielle ?»
Quel était le problème de la banque cantonale du Valais à l'époque?
C'est un peu le problème des banques. Aussi, aujourd'hui, ils risquent quelquefois de donner trop de crédit. Il n'y a pas suffisamment de sécurité. Et finalement, les billets de banque, il faut dire qu'à l'époque, les billets de banque étaient cantonales et pas nationales. Il n'était pas sûr.
Donc là, on est en plein dans l'histoire. Quand on parle de Farinet, il faut toujours bien séparer la légende et l'histoire, le rêve et la réalité. Là, on est en plein dans l'histoire. En avril 1880, Berne, une fois de plus, lance un ultimatum à l'État du Valais. Ça suffit, il faut arrêter cet homme. Alors le gouvernement a pris peur. Et c'est les primes lancées dans tous les villages. D'abord 300 francs, 500 francs, 800 francs d'époque. À qui ramènerait Farinet, mort ou vif? Le mort est important. Et à ce moment-là, c'est la chasse à l'homme tout au début d'avril. Et le 17 avril, on a retrouvé Farinet ici, à deux pas de nous, dans les gorges. Et nous, les amis de Farinet, dans un esprit ésotérique, on dit l'homme a connu en une fraction de seconde les quatre éléments ésotériques, ce qui est assez fou, comme les héros antiques. C'est-à-dire qu'il a connu l'air, il était dans la montagne avec les aigles, les chamois et tout ça. Il a connu le feu qui lui est arrivé en plein cœur. Il a connu l'eau, on a retrouvé son corps dans l'eau, dans les sources de la Salence. Et il a connu la terre, le quatrième élément, il avait sa tête qui reposait sur la terre de Saillon. Voilà Farinet, la mort de Farinet. La réalité, on ne sait pas s'il a été abattu ou non par la police. Nous, on a 6 preuves comme quoi il a été abattu, mais on n'a pas l'essentiel. C'est-à-dire l'homme qui vient et qui dit « c'est moi qui l'ai tué ». On a le nom des gendarmes, ils étaient une vingtaine. On a Daillère, Caillé-Bois, le commandant de Sépubus et tout ça. Mais aucun des gendarmes a dit « c'est moi qui l'ai abattu ». Donc, on ne sait pas. Vous avez l'histoire du Marocain dans la Seine. Un homme est venu, il a dit « c'est moi qui l'ai basculé ». Ici, on n'a personne qui peut dire « c'est moi qui l'ai tué ». Donc, le mystère subsiste et on croit que c'est mieux encore que le mystère subsiste. Farinet auréolé de mystère, abattu ou non, c'est encore bien plus beau. Donc, il est mort le 17 avril, au matin. Il est né le matin, il s'est évadé le matin. Il est mort un matin aussi à 5 heures dans ces gorges de la Salence. Et 4 gars de Saillon ont ramené le corps au village. Et c'est là, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il a été jeté dans la fosse commune, comme un chien, pratiquement. Mais on ne sait pas. Déroché ou non, abattu ou non, nous on dit qu'il a été abattu en tout cas par le destin. Et on a 6 preuves, comme je vous disais, qu'il a été abattu par la police. La police a demandé à ce qu'on le ramène mort ou vif, ça dit bien ce que ça veut dire. Les primes à celui qui le ramènerait Farinet. On a le Camille Desfeuilles qui a vu le corps de Farinet à la maison de commune. Camille Desfeuilles qui n'est pas n'importe qui, il a été juge cantonal, président du tribunal cantonal, jusqu'à sa mort. André Marcel vit toujours, il a certifié André Marcel. J'ai vu le corps, j'aurais pu mettre mon crayon dans le trou fait par la balle. Le président Moulin qui est allé sur la maison de commune voir le corps de Farinet. Quand il est sorti, les gens lui ont dit « Mais alors, quoi ?» Mais lui, il a reçu un pruneau. Et puis on a une pièce capitale, c'est celle du médecin légiste, signée de sa main, disant « Le corps de Farinet était troué en son milieu. » La police dira « Il y a des cailloux pointus dans la Salence, hein, bien sûr. »
Détachement, halte ! Demi-tour, ouais !
Philippe Vautrin reste évidemment la question essentielle pour l'historien, puisque l'on sait très bien que dans l'image de Farinet, il y a aussi sa mort, fusillé, tué par l'autorité, mort sous les balles des gendarmes. Cela dit, la polémique règne toujours. Comment est mort Farinet? Sait-on finalement s'il est simplement tombé dans les gorges de la Salence, ou est-il vraiment tombé sous les balles des gendarmes?
En tant qu'historien, je peux dire que d'une part, on sait que le conseiller cantonal responsable pour la police, il donnait l'ordre de trouver Farinet mort ou vif. Mort ou vif. Ça laisse toutes les possibilités ouvertes. D'autre part, on connaît le rapport du médecin qui cherchait dans le corps de Farinet mort et qui ne trouvait pas de balles. Ça veut dire que la question reste ouverte et ça appartient un peu au charme de cette histoire.
Voilà donc pour l'histoire de Farinet, histoire empreinte de mystère, d'inconnu, et ce n'est d'ailleurs pas le moindre de ses charmes.
Superbe histoire en effet, mais Marc Decret, Pascal Thur l'a bien dit, Farinet n'est pas mort dans l'esprit des Valaisans. Il est même devenu un véritable symbole aujourd'hui.
Oui, un tel symbole qu'on l'utilise d'ailleurs à toutes les sauces, et que les célébrités se bousculent pour vendanger la célèbre vigne de Farinet, aujourd'hui propriété de l'abbé Pierre. Mais vous savez, derrière ces mondanités, c'est toute l'image du Valais frondeur qui se cache. Les révoltes, la matze, les vignes brûlées ou encore les pylônes électriques dynamités. C'est toute une image d'insoumission et de liberté, et c'est justement ça qui a séduit l'historien Willy Vautringue.
Ce qui m'intéresse, c'était pas tout à fait les raisons pratiques comme la corruption ou la question de la monnaie, c'est plutôt un aspect psychologique, dans le sens que Farinet représente un peu tous les désirs noirs, je dirais, des Suissesses et des Suisses. Il représente un peu la cave de la Suisse, et pour cela, je trouve, il est un peu le héros national suisse noir, obscur, caché. Et pour cette raison, je propose de remplacer ce Guillaume Tell que avec lequel personne n'a une relation vraiment intime par ce Farinet, qui a quand même toujours le problème de l'argent et du porte-monnaie, qui est un problème typiquement suisse.
Mais Farinet, Guillaume Tell, deux personnages finalement révoltés, qui sont des insoumis, qui refusent l'autorité, étrange tout de même comme héros pour un peuple, la Suisse, qui est finalement très propre en ordre.
C'est peut-être pas étrange, ça correspondant justement, si on aime tellement l'ordre et la propreté, comme nous, les Suisses, et surtout nous, les Suisses allemands, donc il y a l'autre côté, l'espoir, le désir, la révolte cachée, la cave de la Suisse.
C'est un peu l'instinct qui ressort derrière la raison?
C'est ça, peut-être on devrait même citer Sigmund Freud.
Vos monnayeurs, frappés d'un cœur près des étoiles de cavalier, oh la loi, tu restes bien aimé. Tu l'as pas volé, la liberté, c'est des opprimés et des sous-clés. Tu t'es fait l'ami des démunis, les nantis ont mis ta tête à prix. Toi, Farinet, frappé au cœur, au bas des Alpes, t'es demeuré sur les cimes de la liberté.
Barrault, on a posé la question à Barrault, il a répondu, Farinet, c'est maintenant. C'est cet instant qu'on partage, nous deux, la marque en train de boire un verre tout à l'heure et tout, qu'on scelle l'amitié, c'est ça, Farinet. Au début, c'était un peu l'hors-la-loi, l'anarchiste, le Valaisan un petit peu révolté. Maintenant, plus j'avance, plus je pense que Farinet, c'est un héros romantique. Il apporte aux jeunes, surtout, et aujourd'hui plus que jamais dans la situation économique, ce dont on a tous besoin, le rêve.
C'est pas aussi un symbole de l'indépendance valaisanne. On sait que Farinet, par exemple, a été arrêté, mais finalement, un peu par la volonté de Berne contre la volonté des autorités valaisannes.
On retrouve tout ça dans l'histoire valaisanne, toujours un peu cette opposition vis-à-vis de Berne. Mais c'est clair que ce canton, je l'ai dit quelque part, continue à sentir l'encens et la poudre. Et c'est pas si mauvais que ça. D'ailleurs, on a deux pas des cônes, là, la colline à Farinet. Non, je crois que c'est un Valais authentique, pur, un peu traditionnaliste, mais qui est jeune, malgré tout, jeune, parce qu'il se rend compte que, de notre côté, de notre point de vue, avec Farinet, on se rend compte que l'essentiel, c'est peut-être pas de faire carrière, c'est peut-être pas d'avoir sa résidence secondaire, son bateau à voile et tout ça, il y a peut-être autre chose, l'ésotérisme, c'est-à-dire miser sur d'autres valeurs. Et je crois que Farinet a misé sur d'autres valeurs. L'essentiel, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le rêve, c'est le romantisme. C'est comme les héros anciens, les héros antiques. Pour moi, Farinet, c'est l'homme qui est allé jusqu'au bout de lui-même. Aujourd'hui, on voit des jeunes anarchistes, des objecteurs de conscience ou non, qui sont capables de vivre deux mois, au pire, dans la montagne, en voulant tout balancer, mai 68 ou non. Puis on les retrouve après très embourgeoisés, quelque part, à la radio ou ailleurs, ou PDG dans une entreprise. Farinet est allé jusqu'au bout. 15 ans qu'il a vécu son rêve de libertaire, ben ça faut le faire, jusqu'à ce que mort s'en suive.
Allez, tirez! Mais tirez, bon Dieu! C'est ce que vous savez faire de mieux! C'est alors que vous êtes les meilleurs! Ratez! Vive la liberté!
Voilà Sylvie, voilà Farinet, voilà la fausse monnaie pour le mythe et la légende. Et on précisera encore juste que le spectacle dont vous avez pu entendre quelques extraits enregistrés il y a 10 ans eh bien que ce spectacle sera rejoué cet été sur les toits de Sion. C'est bien sûr à ne pas manquer. Puis signalons aussi que le Farinet de Ramu, eh bien lui sera monté durant le week-end de Pentecôte en plein air dans le nouveau théâtre installé sur la colline Farinet à Saillon. Et puis je rappelle aussi le titre de l'ouvrage de Willy Vautrin qui paru en début de semaine, c'est Farinet, et c'est publié aux éditions Heuwinkel à Carouge. Voilà Sylvie Lamblay, alors place maintenant au XXe siècle, au faux monnayage d'aujourd'hui, et là on peut dire que ça continue.
Oui, on continue de fabriquer des fausses thunes, pas forcément en Suisse, elles sont souvent fabriquées ailleurs, mais bien sûr destinées au marché suisse. Et preuve que nos autorités prennent la chose au sérieux, depuis cette découverte des fausses pièces de 5 francs dont nous avons parlé au début de cette émission, eh bien depuis on a changé leur fabrication pour décourager les faussaires. Je vous montre un exemple, on a ici une pièce de 1986.
Une toute récente, oui.
Entre 85 et 93, on a décidé de faire l'inscription sur la tranche en creux, parce que ça s'usait moins facilement. Et puis, depuis l'an dernier, eh bien, on a décidé de nouveau de faire l'inscription en relief pour décourager les faussaires, parce que c'est plus difficile à copier. Mais pour en savoir plus sur la fabrication de ces pièces, je vous propose de faire un tour du côté de la Monnaie fédérale à Berne, qui est située dans le quartier Cossu de Berne, dans une maison en briques du début du siècle, qui est gardée par une haute grille, comme
un gros cadenas,
il se doit.
J'imagine.
On a un peu l'impression d'entrer dans une prison. C'est Manfred Schmidt qui en est le gardien, pardon, qui en est le chef.
Oui, donc l'alimentation donc, se fait automatiquement par le dispositif d'alimentation. Et puis ensuite, à l'intérieur de la machine, les rondelles sont amenées vers les outils de frappe.
Alors là, les rondelles, au départ, elles sont vierges.
Elles sont toutes lisses. Oui, oui.
Et puis l'appareil les frappe.
C'est la machine qui les frappe.
Des deux côtés en même temps ?
Des deux côtés en même temps, comme d'habitude, oui.
On va voir à la sortie.
Justement, l'opérateur est juste en train de contrôler la qualité. Donc, avant de vider les petits compartiments là, il contrôle toujours la qualité. Si jamais il a un défaut, donc on ne va pas jeter la masse entière qui est dans le conteneur, mais uniquement ce qui est dans le petit boîtier ici. Hein.
Et celles qu'on voit défiler sur le tapis, ici, le tapis roulant, donc elles sont entièrement frappées, même sur la tranche.
Oui, même sur la tranche.
Mais la tranche, elle se fait ailleurs.
Là, j'aimerais pas tellement vous répondre. Hein. Ça, c'est un peu un secret de fabrication. Ça, c'est un effet, ça fait partie de justement ce qui est l'opération donc clé, si vous voulez.
La dernière fois que je suis venue, il y a 2 ans, Manfred Schmidt, j'ai pu tout voir, tout le processus de fabrication. Aujourd'hui, on est plus méfiant. Pourquoi ?
Justement, du fait qu'il a eu des contrefaçons, on fait davantage attention à ce fait qu'on divulgue pas trop ce que nous faisons.
Alors voilà donc cette fabrication de monnaie, c'est bien sûr entouré de plein de mystères, de secrets de fabrication. J'imagine que c'est un moyen évident d'éviter la contrefaçon. Mais alors il y a encore les billets, et là je pense que ça doit être encore plus secret.
Alors les billets, c'est impossible de visiter le lieu de fabrication. La planche à billets à Zurich, on ne peut pas la voir. Ça se situe donc à la Banque Nationale. Le souci de prévention est là encore plus poussé. Il suffit de regarder un billet dont le graphisme est très compliqué pour que ce soit plus difficile à copier. Et puis, il y a toutes sortes de systèmes de sécurité dont nous parlerons tout à l'heure. Il faut dire que la technique évolue très rapidement. Actuellement, le principal danger pour la contrefaçon, ce sont les photocopies couleurs.
Oui, chez les amis de Farinet, j'ai vu un billet de 100 francs photocopié en couleur. Ils ont dû mettre dessus un gros spécimen, tellement c'était bien imité.
Voilà, les photocopies arrivent à des qualités extrêmement bonnes. Donc, les faussaires s'améliorent. Et pour les déjouer, eh bien, on fabrique de nouveaux billets tous les 20 ans en Suisse. Et à partir de cet automne, vont arriver les nouveaux billets de 50 francs. Ces nouveaux billets comporteront des systèmes de sécurité nouveaux également. J'ai voulu en savoir plus, mais Roland Tornard, qui est directeur de la Banque Nationale chargé du numéraire, Roland Tornard est resté muet. Le suspense va durer jusqu'en septembre, où on présentera ce nouveau billet et ses nouvelles caractéristiques. La seule chose qui est connue actuellement, c'est le fameux kinégramme.
Un kinégramme, c'est une image qui, en fait, varie suivant l'angle d'observation. C'est-à-dire que c'est une image qui va se déplacer ou qui va bouger et qui va également changer de couleur, et qui est appliquée généralement sur un film d'aluminium.
Alors, par exemple, on voit quelque chose qui bouge, on peut voir un œil cligner ou quelque chose comme ça ?
Voilà, par exemple, du reste, la plupart des gens ont déjà été en contact avec un kinégramme ou un hologramme. On les retrouve très souvent sur les cartes de crédit, quoi, pour l'instant.
Alors maintenant, le principal danger pour les billets, ce sont les photocopieuses couleurs. Ça veut dire que n'importe qui peut faire du faux monnayage, c'est à la portée de tout le monde.
Alors effectivement, n'importe qui peut faire en fait du faux monnayage. Il va bien sûr dépendre de la qualité de la fausse coupure. En fait, tout est falsifiable, ça dépend de la qualité après que cette fausse coupure aura. Le papier joue un rôle très important dans la fabrication d'un billet de banque, puisque chacun, le premier contact qu'il aura avec une coupure, ça sera le toucher. Et si le toucher ne correspond pas au toucher habituel, là, les gens auront un doute. Et dès qu'ils ont un doute, là, c'est important que les personnes contrôlent l'authenticité de leur billet. Et pour cela, en fait, il y a différents éléments, tels que la taille douce, qui donne un certain élément de relief au billet, et qu'on sent très bien ce toucher rugueux, en fait, vers le portrait. Et ça, c'est un élément très spécifique du billet de banque. Ensuite, bien sûr, il y a le filigrane. Donc, lorsqu'on regarde le billet en transparence, on voit le portrait de la personne qui est représentée sur le billet, en plus le fil métallique.
Donc ça, ce sont les quelques trucs qui nous permettent de déceler des faux billets. Que se passe-t-il si justement on découvre un faux billet ?
Alors, si on découvre un faux billet, en fait, il faut le remettre le plus rapidement possible à la police ou à sa banque, et bien sûr confirmer que c'est un faux billet. Pour la personne, malheureusement, son argent est perdu.
Pas possible de se faire rembourser.
Non, pas du tout possible de se faire rembourser. A priori, cela paraît assez dur, mais vous comprendrez bien que, par exemple, nous ne pourrons pas rembourser une photocopie ou, par exemple, photocopie même noir et blanc, parce que vous diriez que vous êtes de bonne foi et que vous avez accepté ce billet-là.
Alors, on a vu comment l'État s'y prend donc pour prévenir le faux monnayage en fabriquant des billets le plus difficile possible, en tout cas à copier. Mais ça n'empêche pas les faussaires, eux, de continuer à fabriquer des faux. Alors, comment est-ce qu'on lutte contre ce fameux faux monnayage ?
Alors, c'est surtout le rôle de la police, les polices cantonales qui enquêtent dès qu'on a trouvé un faux billet. Et puis à Berne, eh bien, il existe l'Office central pour la répression du faux monnayage, un office qui assure la coordination entre cantons et bien sûr avec l'étranger, parce qu'on trouve énormément de faux billets saisis en Suisse. Je vous donne un exemple. En 93, on a saisi pour 7 millions de francs suisses et pour 13 millions de dollars. Il faut dire que le dollar, on limite beaucoup parce qu'il est facile de payer en dollars partout dans le monde. Et puis, le dollar n'a que deux couleurs, le noir et le vert. Le franc suisse, par contre, résiste assez bien à la contrefaçon, m'a-t-on dit à Berne. Alors, à l'Office central de la répression, j'ai rencontré Roger Descaillés. Il m'a parlé des techniques qu'utilisent les faussaires. Drôlement futé, écoutez.
Vous voyez, je ne veux quand même pas vous dire tous les secrets, mais nous savons que les billets de banque authentiques, le papier pèse 90 grammes sur le mètre carré. Alors les faussaires utilisent souvent deux papiers à 40 grammes, recto verso, copiés séparément. Et ensuite, ils coupent de l'alu pour imiter le fil métallique et ils appliquent le filigrane d'une manière ou d'une autre à l'intérieur, et ils collent les deux papiers ensemble, ce qui donne, avec la colle, environ le même poids du papier authentique.
On en attrape beaucoup de ces faux billets en Suisse chaque année ?
Oui, disons, la quantité est assez considérable. Ce n'est pas alarmant.
Considérable, c'est-à-dire un ordre d'idée ?
L'année passée, nous avons eu environ 411 billets de 100 francs suisses, 142 à 500 et 640 à 1000. Ça vous donne quand même une idée des copies couleurs qui ont été écoulées ou saisies l'année passée.
Et est-ce qu'on fabrique encore des fausses pièces aujourd'hui ?
Alors vous connaissez certainement le cas des fausses pièces de 5 francs qui nous occupent depuis 1993. Et jusqu'à ce jour, nous avons saisi en Suisse et à l'étranger environ 60 000 pièces.
Et on continue d'en trouver ?
On continue d'en trouver, certainement. Elles sont tellement bien faites.
D'où viennent ces faux billets ou ces fausses pièces ? Elles sont fabriquées où ?
En ce qui concerne les fausses pièces de 5 francs, on soupçonne que cette monnaie a été frappée en Italie.
Et les faux billets ?
Probablement fabriqués chez nous, dans notre pays.
Est-ce que vous avez assisté à une recrudescence du faux monnayage avec l'arrivée des photocopies couleurs ?
Certainement. Les premiers appareils ont été mis sur le marché en juin 87 et depuis on a toutes les années une recrudescence de ce genre de contrefaçon.
Alors on va bien sûr parler de la photocopie couleur, mais sûrement une chose, je suis sûr Sylvie, qui ne vous a pas dit, Roger Descaillets, c'est qu'il possède un chalet en Valais, et devinez le nom qu'il a donné à ce chalet, Farinet. Bien entendu.
Je l'ignorais.
Alors donc, il parlait de photocopie couleur, Roger Descaillets. La photocopie couleur, c'est donc l'avenir des faussaires et on n'utilise plus dans ce domaine-là l'imprimerie.
Si, alors en Suisse, on saisit de plus en plus de photocopies, mais on a aussi récemment, l'an dernier, découvert une imprimerie dans le canton de Schwyz qui aurait produit 5 millions de faux dollars. Et puis, Roger Descaillets m'a montré un faux billet de 100 dollars extrêmement bien imité. Et pour qu'il soit si bien imité, il était imprimé en taille douce, donc c'est une technique d'impression, c'est celle qu'on utilise pour les billets, avec toutes les sécurités, les petits filaments rouges et bleus qui sont disséminés dans le papier. D'après certaines sources, ces faux de 100 dollars extrêmement bien imités seraient fabriqués par le gouvernement iranien. Il y en aurait pour 15 à 20 milliards de dollars. Bien sûr, cette information n'est pas confirmée.
Alors là, on entre dans le domaine quasiment du banditisme organisé, voire même étatique, mais enfin, évidemment, vous dites information non confirmée. On vient peut-être à des choses plus modestes, aux faux-monnayeurs, à l'individu. Vous avez rencontré un vrai faux-monnayeur ?
Oui, l'affaire est assez ancienne, elle date de 82. Je vais demander dans quelles circonstances il s'était mis à fabriquer de la fausse monnaie.
C'était une période un peu noire de ma vie où j'étais ruinomane. Et une période où j'avais arrêté. Mais les deux amis que j'avais qui faisaient commerce d'héroïne étaient malades et m'ont demandé comment je pourrais faire pour leur donner un coup de main. Comme j'avais pas beaucoup d'argent, on a décidé de faire une escroquerie face à un dealer à Genève. En faisant des faux billets de 100 francs. Alors, c'est pas vraiment une grosse escroquerie, parce qu'il a suffi d'aller faire des photocopies et ensuite de colorier ces billets qui étaient faux. Et il y en avait 10, donc c'était pour 1000 francs, c'était une toute petite chose, en pensant qu'elles enrouleraient les faux billets avec le vrai billet de 100 francs. Et comme quand on achète de l'héroïne dans la rue, ça va très vite. Elles auraient pu embobiner le vendeur, parce qu'en plus, c'était des charmantes jeunes femmes, donc.
Et pourquoi vous avez dû colorier ces billets ?
Parce qu'à l'époque, les photocopieuses couleurs n'étaient pas vraiment au point. Et que juste à côté de chez elles, il n'y avait pas de photocopieuses couleurs, en plus. Alors, on a fait ça au crayon, c'était très bien. On a passé l'après-midi, très, très beau travail artisanal de peinture, enfin de crayonnage. Et puis bon, comme ça, ça aurait dû passer, normalement. Moi, j'ai laissé les deux filles aller à Genève, vu que ça se passe à Lausanne. Hein. Et elles n'ont rien trouvé de mieux, ces imbéciles, que de prendre le taxi et de payer avec un faux billet. Alors, on sait, les chauffeurs de taxi, ils regardent bien quand même l'argent. Mais ce chauffeur de taxi, d'après ce que j'ai appris, n'a pas vraiment fait attention. Mais elles ont insisté pour avoir la monnaie sur le billet de 100 francs. Alors évidemment, elles se sont fait arrêter et elles n'ont rien trouvé de mieux que de donner mon nom à la police en disant que c'était moi qui avais fait les photocopies. Alors j'ai été accusé de fabrication de fausses monnaies et voilà.
Alors vous avez été par la suite, j'imagine, arrêté et puis jugé ?
Exactement, j'ai été arrêté, jugé et j'ai été condamné assez lourdement. Pas uniquement pour la fausse monnaie, parce qu'en tant que consommateur d'héroïne aussi, mais pour la fausse monnaie, le juge me disait que « Oui, vous comprenez, c'est un délit absolument très grave, vous seriez en Iran, vous seriez condamné à mort. » Et bon, j'ai pris 2 ans de prison. Et bon, je crois qu'il y a eu plusieurs choses, il y avait des problèmes politiques aussi, mais le juge n'aimait pas du tout qu'on s'amuse avec l'argent parce que c'est un symbole très suisse et vraiment c'est pas une chose qu'on doit toucher. Il n'y a que la banque qui peut faire des billets. Et bon, pour 1000 francs de faux billets, ça a aussi pesé dans la balance, ce qui fait que j'ai pas eu un sursis, genre 18 mois. J'ai eu 24 mois ferme, voilà.
Ça vous est pas arrivé de recommencer ?
Non, non. Et même si ça m'était arrivé, je dirais pas.
témoignage révélateur en tout cas. Alors voilà, on a entendu le faux monnayeur, on a parlé des fausses monnaies, des faux billets, on a parlé des fausses pièces. Reste, je dirais, la dernière étape de ce voyage au sein de la fausse monnaie, c'est la détection des faux. Et ça, on imagine bien que c'est à la banque que ça se passe.
Alors oui, le contrôle systématique des billets se fait dans les banques. D'abord à la Banque Nationale à Berne, où 460 millions de billets sont contrôlés chaque année. Ça veut dire que tous les billets passent au moins une fois par année dans les mains des contrôleurs, voire plus tous les trimestres pour les grosses coupures de 1000 francs. Mais à la Banque Nationale, impossible de visiter le contrôle, raison de sécurité. Je me suis donc rendue à la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, dans les sous-sols. Et après avoir passé toutes sortes de sas et de portes qui ne s'ouvrent que grâce à des codes électroniques, on arrive dans la réserve des billets. Et c'est là qu'opèrent Georges Sidel et ses collègues qui font le contrôle manuel des billets.
On prend les liasses l'une après l'autre et on regarde tous les billets l'un après l'autre.
Tous les billets qui passent dans votre banque ?
Non, pas tous, parce que si on est sûr de l'origine des billets, il n'y a aucun problème. Si un billet vient de la Banque de France, vous avez des liasses là fermées et tout, il n'y a pas de problème, on est sûr, il n'y a pas de faux dans ces billets. Hein. Alors disons que si on a un doute, on contrôle manuellement.
Quelle quantité vous contrôlez régulièrement ?
On me dit que ça peut faire, je sais pas, entre 5 et 10 000 billets par jour, peut-être même plus. Hein. Bon, disons qu'au départ, il y avait une ou deux personnes qui étaient peut-être un petit peu hésitantes. Là, on avait une machine pour contrôler les billets. Parce que les faux dollars, c'est pas toujours évident de les trouver. Alors, on passait les dollars un après l'autre à cette machine. Et là, si vous voulez, vous recevez 400 000 dollars un matin, vous en avez pour la matinée. Alors que si vous le contrôlez à vue, une fois que vous êtes bien formé, que vous avez l'habitude, nous, on est une équipe, ça fait quand même 5 ans qu'on est là, et on les contrôle maintenant très rapidement.
Plus rapidement que la machine.
Disons, on gagne en tout cas, je sais pas, 3 heures sur 400 000 dollars.
Et les francs suisses, pas de machine ?
Bon, les francs suisses que vous voyez là, ça vient tout de la Banque Nationale. Alors là, il n'y a pas de problème. Ce qui vient de nos agences, en principe, c'est aussi contrôlé. Hein, ça, c'est... Bon, il y a très peu de faux dans les francs suisses. Hein. C'est pas la monnaie qui nous inquiète. Hein.
C'est plutôt le dollar.
C'est le dollar, le franc français et la lire aussi. Puis les pesettes, quoi.
À vous montrer comment vous faites.
Une liasse, on va y aller avec les dollars. Hein. Alors bon, on prend les billets, nous, un après l'autre, là. On les regarde, et puis avec l'habitude, disons que ça pose plus trop de problèmes. On va quand même très très vite. Là, s'il y a un faux, on le voit.
Bon, à cette vitesse-là, vous voyez les faux.
Oui, on voit les faux. Hein.
Alors, qu'est-ce que vous regardez ?
Ben, disons que là, c'est un billet de 100 dollars. On regarde surtout les yeux du personnage. Et puis, bon, on voit tout de suite s'il est faux. Et si on a un doute, c'est clair, si on voit une coupure de 100 dollars qui nous... Bon, qui dit, tiens, elle est peut-être fausse, on la regarde comme il faut, alors. Hein. Mais autrement...
Et alors, quand vous la regardez comme il faut, vous faites quoi ?
Alors, bon, on la regarde à la lumière... On la regarde ici, on a une machine avec une lampe, on peut regarder le billet en transparence. Si vous voulez, je vais montrer un billet de 100 dollars qui est faux. Disons que si vous le voyez vous comme ça, il va vous paraître normal. Hein. Vous regardez ce billet-là.
Bon, c'est pas le même personnage. Hein.
Bon, d'accord, vous avez déjà vu. Mais quand il est dans la liasse comme ça, vous contrôlez votre liasse comme ça, vous regardez s'il y a partout 100.
Oui.
Vous êtes d'accord, là, il y a 100.
Oui.
Bon, ils ont simplement pris un billet de 10 dollars, ils l'ont maquillé en 100. Le papier est bon, tout est bon. Simplement, ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé le 10 et ils ont mis 100 à la place. En attendant, il a quand même été payé pour 100 dollars, ce billet, hein, dans une banque. Alors, vous voyez. Mais bon, les faussaires, ils ont fait quand même pas mal de problèmes, de progrès, pardon, 10 ans. Ils ont sorti ça il y a, je sais pas, 2-3 ans. Bon, ça, c'est peut-être pas la meilleure imitation qu'on ait, mais c'est quand même déjà un dollar qui pose...
Ouais, alors là, je vois pas la différence à l'œil nu comme ça. Hein.
Voyez,
qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un faux ?
Ben, nous, on voit tout de suite au regard de la personne.
Vous regardez les yeux de Benjamin Franklin.
Voilà, exactement. Et puis, il a pas le regard net. On voit qu'il est faux. Mais c'est vrai que ça demande une certaine pratique. C'est-à-dire, nous, on arrivait là, l'équipe qui est ici. Les premiers 6 mois, il y avait une ou deux personnes qui nous précédaient, qui nous ont montré comment il fallait faire pour détecter les faux billets. Moi, franchement, je vous dirais que je me disais, je ne vais jamais y arriver. Et puis, à force de regarder des billets tous les jours, ça ne pose plus de problème. Mais c'est clair que pour un débutant, je comprends qu'il se fasse avoir. Hein.
Mais vous est déjà arrivé de louper des faux ?
Alors, louper des faux, on en a... on n'a pratiquement pas de cas. Ainsi, je pense qu'on vérifie entre 50 et 60 millions de billets par année. Enfin, il sort de chez nous, cette quantité de billets, et on a au maximum un à deux faux par année qui nous sont signalés. Donc c'est quand même relativement peu. Hein. Mais c'est clair qu'on n'est pas infaillible, des faux, on peut toujours en laisser passer.
Quand vous trouvez un faux, vous ressentez quoi ?
Ah, ben on est content, souvent. On est souvent content, ça fait toujours plaisir de trouver un faux, quoi. On se dit, tiens, ben voilà, j'ai pas perdu l'œil. Mais bon, ma foi, ça fait partie de notre travail. Hein. Mais on est content de ne pas l'avoir laissé passer, quoi.
Garder l'œil et le bon, eh bien, ce sera le mot de la fin de ce vrai faux forum. À chacun de tenter d'en faire autant, même si cet œil, eh bien, nous ne l'avons pas aussi exercé que les spécialistes des banques. Allez, on en reste là pour cette émission que nous vous proposions avec Sylvie Lamblay. La réalisation était signée Imelda Gua. Demain, c'est Daniel Favre qui vous attendra à 18h20 pour une nouvelle édition du Vendredi des journalistes. Et lundi, retour au débat avec vos interventions par téléphone. Nous évoquerons la bronzette, le soleil, mais aussi ses dangers. Soleil et cancer de la peau, rendez-vous lundi à 18h20. Et puis tout de suite, bien sûr, c'est Baraka qui vous attend sur cette antenne. Baraka avec un concert de Giorgio Conte. Baraka, c'est tout de suite après les informations de 19h et le journal des sports.
Forum vous a intéressé ce soir? Vous souhaitez commander la cassette? Alors appelez le 037 23 24 24.
Voilà, excellente soirée à l'écoute de Radio Suisse Romande, la première, où il est tout juste 19h.